Bonjour et bienvenue dans Certains les Machos, l'émission qui embrasse les films à la sortie.
Salut Thomas.
Salut Thierry. Salut Hera.
Salut.
Aujourd'hui un épisode d'amour, un épisode tendresse avec de très beaux films encore cette fois. Cette semaine dans Certains les Machos.
Mathias et Maxime, le nouveau Xavier Dolan.
Camille.
La vérité si je mens.
Sean le mouton.
Queens.
Un programme avec des hauts et des bas. On y va tout de suite.
J'avais-tu dit ou je l'avais pas dit qu'il y a une gosserie avec son esti de femme plate?
Là, t'as dit à moi que t'allais faire tes affaires de ton côté, fait que fais tes affaires de ton côté puis arrête de faire chier mes amis que t'es des marques.
C'est pas une idée de marque, là. C'est juste que ça arrêtait pas de nous
faire. Qu'est-ce que ça fucking change? Vous arrêtez pas de comme faire des tresses puis genre de wrestle comme les acides wack.
C'est vrai qu'ils se font French chance à mon approche?
Ouais, c'est un classique.
Ouais, c'est pas un classique tant que ça, sinon Matt, il l'aurait pas oublié.
Mais c'est clair que Matt, il criera pas sur l'autre de son char. J'ai Frenché Max secondaire 3. Never forget.
Mathias et Maxime de Xavier Dolan. En 2016, Xavier Dolan avait remporté le Grand Prix à Cannes grâce à Juste la fin du monde. Il revient en compétition en 2019 avec Mathias et Maxime et repart bredouille. Gabriel d'Almeida Freitas dans le rôle de Mathias, Xavier Dolan dans le rôle de Maxime. Huitième long métrage, on revient aux bases. Mathias et Maxime s'embrassent lors du tournage d'un court métrage et depuis... Les deux amis sont tourmentés par ce qu'ils ont vécu. Ce baiser semble les hanter. Ou pas. Enfin, on ne sait pas trop. Enfin, c'est compliqué. N'est-ce pas, Hera?
Ouais, c'est compliqué comme, comme quand tu mets que c'est compliqué pour ta vie amoureuse sur Facebook, quoi. C'est-à-dire, on ne voit pas cette complexité qu'il y a entre les deux personnages. Donc, suite à ce baiser que les deux personnages s'échangent, et d'ailleurs, on crée vraiment tout un drame autour de ce baiser. C'est-à-dire, pour la plupart des gens, juste embrasser quelqu'un, c'est juste embrasser quelqu'un, on va pas non plus en faire tout un truc. Mais là, si, ça devient quelque chose de vraiment important, ça devient quelque chose de grave, de dramatique. On tourne autour de ce baiser pendant déjà une bonne vingtaine de minutes au début du film, de comprendre le pourquoi du comment. Est-ce qu'on a envie de le faire, pas envie de le faire? Est-ce qu'on a envie de tourner dans ce film, pas tourner dans ce film? Donc déjà, on comprend à quel point ça devient un ressort dramatique, une action dramatique, alors que quand on prend un peu de distance, on se dit oui, bon, au pire, c'est une galoche, hein. Mais bon, admettons. S'ensuit une grande distance entre les deux personnages. Donc, il faut aussi comprendre que le personnage de Maxime s'en va en Australie 12 jours après cet événement. Donc, il va pas. Ils ont un peu 12 jours, en tant que. C'est un peu des meilleurs potes, pour continuer de traîner ensemble et pour vivre. Et ils vont au contraire prendre énormément de distance. On peut supposer qu'ils sont perturbés par ce qui vient de leur arriver, mais il n'y a rien dans le film qui le laisse supposer. C'est complètement. Ça passe complètement sous silence. On voit pas quelles sont les tensions internes qui peuvent s'offrir à eux, on comprend pas l'ambiguïté de ce qui s'est passé, on voit pas la tension que ça entraîne, on va juste voir des instants de vie entre les deux personnages sur fond de crise d'identité sexuelle.
Cette tension-là, je l'ai énormément ressenti, puisque pour moi c'est même pas le côté ils s'embrassent et tout à coup il y a une tension. Il y a déjà une énorme tension au fait que ça puisse se passer entre eux deux dès le début. Les deux ne veulent pas, c'est pas que les deux veulent pas forcément jouer dans le film, ça les fait chier parce que la nana qui veut tourner le film est insupportable. Ce qui les fait chier, c'est de se retrouver aussi ensemble dans la même scène parce qu'on sait qu'il y a eu des antécédents. Et je pense que c'est plus toute la complexité autour de leur relation d'amitié qu'ils ont peur de gâcher l'un comme l'autre qui rentre avant tout en compte. Et dans la deuxième partie du film, donc après le baiser justement et le fait qu'il y ait. Enfin, qui a cette crise d'identité sexuelle, qui a cette appréhension à ce que ça se reproduise, c'est parce qu'il y a une fête qui est actée. Pour moi, il est totalement acté qu'un personnage s'apprête à partir et donc ils vont tous se revoir au moins une fois avant qu'ils partent et que les deux, l'un comme l'autre, ne veulent pas se recroiser parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce qui pourrait se passer après ce baiser qui n'a fait que réveiller un amour qu'ils ont l'un pour l'autre, une passion qu'ils ont l'un pour l'autre, mais qu'ils ne veulent absolument pas s'avouer. Pour eux, ce baiser n'a rien déclenché, il a juste réveillé quelque chose. Et c'est, je trouve que c'est très bien expliqué. C'est peut-être long dans la manière de l'expliquer, mais je trouve que c'est très bien expliqué pour le coup.
Oui et non, je dirais, parce qu'au début, il est exposé le fait qu'ils se sont déjà embrassés quand ils étaient en troisième, mais t'as pas de détails sur ce qui s'est passé entre eux, t'as pas de détails sur ce qu'ils ont éprouvé, et d'ailleurs, il y a un personnage qui s'en souvient parfaitement, et l'autre qui est là en train de dire « Bah non, moi je me souviens pas, non, on s'est jamais embrassé. » Oui, non mais d'accord, il le nie, mais en fait, du coup, ça, je trouve pas que ça réveille une certaine tension, en fait, c'est justement ce que... Enfin, c'est très compliqué de voir un film de Dolan sans comparer à toute sa filmo, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui reviennent. Perpétuellement de mise en scène aussi qui revient beaucoup, donc là, moi j'avais l'impression de revoir un peu un Reddit des amours imaginaires. Et dans les amours imaginaires, il y a cette ambiguïté qui est soulignée, qui est bien mise en avant, qui est bien lancinante, qui est bien présente. Tu comprends le triangle amoureux, tu comprends qu'il y a une tension entre les personnages. Elle est là, elle est jouée, elle est montrée. Là, j'ai trouvé ça vachement absent, justement, comme tension. Et le fait de nier, bah, il nie, mais pas tant que ça. Je trouve que le moment où il nie, c'est peut-être plus à la fin. Le moment où il rejette totalement ce qu'il ressent, c'est peut-être plus à la fin, pendant les 20 dernières minutes du film qui sont intéressantes, mais limite un peu facultatives. Moi, j'ai pas senti cette tension, c'est ça que je reproche au film, justement. On disait que c'est un film dans lequel il se passe rien, et Thomas disait ça juste avant, et moi je lui répondais que je trouvais que c'était ok à partir du moment où ça racontait quelque chose. Et là, j'ai trouvé que cet élément qui est super important, qui est cette tension-là entre les deux personnages, est absente totalement, et du coup, c'est là où ça retombe, pour moi.
C'est pas tant qu'il se passe rien, c'est qu'il se passe des trucs qui m'intéressent pas. Je sais pas vous, mais je suis arrivé dans un groupe de potes, seulement il n'y avait pas mes potes à moi pour faire l'intermédiaire. Donc il se passe des trucs, les mecs sont bien entre eux, ils sont dans leur cercle, mais je rentre pas dedans, j'arrive pas, ça ne m'intéresse pas, ces personnages-là ne m'intéressent pas. Je ne sais pas quels sont leurs soucis d'ailleurs, quelles sont leurs histoires, l'Australie ou pas. On apprend qu'il part en Australie au milieu du film, enfin on apprend très longtemps après, c'est pas le milieu du film, c'est le premier tiers, mais ça paraît tellement long qu'on ne sait plus où on en est. On a des soirées de potes qui sont interminables. Fait pareil, une soirée de potes, quand t'es avec tes potes, que tu t'amuses et que t'es dans le délire, ça passe tout seul. Et quand tu la regardes passer parce que, je sais pas, tu conduis, tu bois pas, par exemple, tu vois, ce genre de truc, que t'es pas dans le délire, elle te paraît très très longue, la soirée. Là, c'était pareil. J'étais très très extérieur à ce film et je sais pas ce qu'ils font dans la vie. Je sais pas pourquoi ils partent en Australie. On sait pas ce qu'ils font, on sait pas ce qu'ils veulent. Ces personnages n'existent pas. C'est juste des mecs comme ça. C'est juste des figurants pour moi qui discutent entre eux et ça m'intéresse pas. Et de passer 2 heures à leurs soucis, leurs états d'âme, mais au secours quoi.
C'est assez marrant que tu dis ça parce que autant moi j'ai absolument pas ressenti ça, mais par contre je peux tout à fait comprendre qu'on puisse le ressentir. Donc du coup tu vois, je trouve même pas que tu sois spécialement méchant là dans ce que tu dis, mais au contraire je me dis je trouve que c'est très pertinent. La manière dont tu l'exprimes, puisque tout est une question de la façon dont on le ressent. Je te rejoins, Hera, sur le côté, enfin, quand tu dis que tu ressens pas énormément de tension, en fait, mais je te rejoins dans le sens où je vois ce que tu veux dire. Il y a un côté moins défini, et pour moi, c'est juste dû à. Et tu fais le rapport avec les amours imaginaires, et pour moi, c'est juste dû aussi à la distance qui sépare les deux films. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont reprocher à Xavier Dolan de faire tout le temps le même film parce qu'il traite tout le temps les mêmes thèmes. Moi, je dirais justement, il traite souvent des mêmes thèmes, mais il fait pas le même film. Parce que tu peux, de toute façon, comme beaucoup de cinéastes, on a vu la bande-annonce du Ken Loach, et c'est donc la preuve, tu peux constamment avoir les mêmes thématiques et parler des mêmes choses, mais tu n'en parleras pas de la même façon à différents âges de ta vie. Et les amours imaginaires, c'est l'amour à la vingtaine. Quand tu es amoureux à 20 ans, tu es obsédé par ça. Il n'y a que ça. Quand tu es amoureux à 30 ans, ça t'obsède aussi, mais tu as aussi d'autres préoccupations. Là, par exemple, tu as la mère de Maxime qui est malade, qu'il doit mettre en curatelle. Chacun a sa vie, et donc du coup, je pense que c'est le moment où ils se retrouvent seuls avec eux-mêmes que ce goût d'inachevé, cette relation qui n'est pas concrète, à la fois pas abstraite non plus, surgit dans leur esprit. C'est pour ça qu'on ne parle pas que de ça. C'est pour ça qu'on ne montre pas que ça. Peut-être que le film aurait dû se rapprocher plus de ça pour justement nous montrer de quoi il parle, et que du coup, c'est pas forcément évident que ça peut distraire et ennuyer. Moi, je trouve quand même que le film est trop long. Mais en soi, plus que de l'avoir apprécié, je pense que je l'ai compris d'une certaine manière, hein, qui n'est peut-être pas celle de Xavier Dolan, mais du coup le fait d'avoir compris ça, en tout cas pour moi, a fait que j'ai pu m'approcher du film sans forcément passer un moment inoubliable quoi.
Ouais, moi aussi j'ai pas passé un mauvais moment du tout devant ce film. Il y a des choses d'ailleurs que j'ai adoré revoir de Dolan, justement, où ce que tu dis est juste, et c'est sur l'aspect entre l'amour à la vingtaine et l'amour à la trentaine. Effectivement, je reviens juste sur le fait que pour moi, ça aurait été si justement on avait eu des instants où on voit ces deux personnages seuls en train de réfléchir à ce qui s'est passé, ou en train de recréer quelque chose à propos de ça. Non, là, il l'évite, c'est de l'évitement, mais complet, en fait. C'est peut-être aussi ça, le film, et peut-être que c'est ça, cette lecture-là, que j'ai pas comprise. Ou en fait, c'est du « j'évite d'y penser » jusqu'à ce que je te revoie et que là, je dois y penser. Et pour moi, il manque cet espace de transition au moment où justement, il commence à réfléchir à qu'est-ce qu'il ressent. Et à la partie émotionnelle. Pour un film de Dolan, ça manquait d'émotion. Et ça me tue de devoir dire ça, parce que justement, à la base, c'est quand même c'est quand même que de ça, quoi, Dolan. J'émotionne, et j'émotionne à foison devant la caméra, et je chiale, et je hurle, etc. Là, c'était des émotions qui étaient sorties, mais il n'y avait pas. Le sujet principal, en fait, du film n'est pas traité. Comme Jonas Donovan, c'est-à-dire, j'évite mon propre sujet, encore une fois. J'ai peur d'y aller à fond. Ou alors je veux pas y aller pour une raison qui m'échappe, et donc c'est je survole ce sujet-là. C'est hyper dommage. Par contre, ce que j'ai bien aimé retrouver quand même, ça a été ces longues scènes. Donc Thomas, tu parlais des teufs, effectivement. Ces longues scènes pendant des soirées où t'as des musiques qui passent en... des musiques complètes qui passent. Il y a un moment où je me suis éclaté où ils passent Sign of Life de Arcade Fire. J'ai trouvé ce moment génial parce que c'était, ils étaient à, enfin, on est à fond dedans et on retrouve cette essence de Dolan là qui crée des scènes absolument sublimes dans l'époque Les Amours Imaginaires où j'ai tué ma mère, où ça dure longtemps, était embarqué plus par la musique qu'autre chose. Donc ça, tu crées des moments cinématographiques qui sont liés à la musicalité. Là on a retrouvé ça et ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette.
Une scène de fête d'ailleurs au départ qui est montée très 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 vite, très très énervée hein, dans le montage, qui est en contradiction complète avec les scènes où on a Mathias qui est au boulot et qui se fait chier comme un rat mort. En plus, oui, la fête, il y a un truc qui continue aussi à perdre un peu, qui est difficile à rentrer, c'est donc ce montage qui est très très rapide, qui est très forcené, très cuté, très non, enfin bon, très... ça va vite, c'est la fête, donc on est très excité. Mais aussi, il y a un langage aussi qui est très rapide, très parlé, à tel point que les scènes sont sous-titrées aussi par moment. Alors oui, c'est un truc qu'il faut préciser, c'est du québécois dans le texte. Ouais, mais là, c'est particulièrement le cas, et tout le film n'est pas sous-titré d'ailleurs.
C'est pas une volonté de Dolan ou quoi que ce soit, hein. Ça c'est le CNC français qui, dès qu'une scène n'est pas comprise dans langue québécoise, il la sous-titre quoi qu'il arrive. C'est pas un choix de réalisation, je veux dire, donc en soi, on peut pas vraiment l'incomber au film, quoi.
Est-ce qu'on coche les cases du film de Dolan, c'est-à-dire engueulade avec la mère? Dolan qui pleure,
oui.
Deux mecs qui s'embrassent fougueusement,
oui.
Et plus si affinité,
oui.
Et Ram me coche chaque fois, c'est bon. Qu'est-ce qui nous manque, vous avez dit
scène de soirée super longue avec de la grosse musique.
Ouais.
Scène au montage hyper approximatif où t'as l'impression que t'es censé passer des heures alors qu'en fait t'as passé deux minutes.
Ouais.
C'est quelque chose qu'on fera facilement quand on aime pas un cinéaste, et quand on aime bien un pof, on passe un peu à la trappe. C'est pour ça que je trouve que Thierry est outré. Je suis pas outré, c'est juste que bah, forcément, un cinéaste, de toute manière, attendez, certains le cachent très bien, mais tout le monde appuie à mort sur ses clichés, enfin, ça a toujours été le cas, même les cinéastes qu'on adore, parce qu'on est content aussi de retrouver ça. Donc forcément, ça fait partie du personnage.
Je suis d'accord avec toi. Après, le problème de Tarantino et de Dolan, oui, je les mets dans la même phrase. Soyez vénères, j'en ai rien à foutre. Les problèmes des deux, c'est qu'ils commencent à tomber dans l'autoparodie. Et c'est moi, tu connais mon avis sur Tarantino, et Dolan commence à rejoindre ça, et c'est déjà ce qu'on avait dit à la sortie de John F. Donovan, pour moi, il commence à s'autoparodier, et là, il continue à aller dedans, c'est-à-dire qu'il ne montre pas une maturité cinématographique. Et c'est pour ça qu'on s'amuse à cocher des cases, donc ça, en fait, c'est juste pour... Là, on fait juste avec humour... On peut aussi le voir de manière positive, le fait qu'on coche ces cases-là, parce que c'est aussi qu'il a réussi à créer son propre genre.
Quand tu dis qu'il s'auto-parodie, je comprends ce qu'on veut dire, c'est au niveau des thèmes. Moi, je trouve qu'au contraire, son cinéma devient de plus en plus mature visuellement, parce que plus ça va, plus c'est maîtrisé, plus c'est pas calibré, mais en tout cas, mieux c'est cadré. Il y a des plans sublimes, toute la mise en scène est toujours fluide, magnifique, et elle est logiquement de moins en moins maladroite, parce que c'est son 8e film, et qu'il évolue toujours sur ce niveau-là. Je trouve toujours ça de plus en plus maîtrisé. Après... Moi, j'avais tendance à vouloir qu'il sorte énormément de ces thèmes de confort, surtout. De ces sujets de confort, en me disant maintenant que Xavier Dolan est un cinéaste extrêmement accompli dans ce qu'il fait, j'ai envie qu'il me raconte d'autres histoires, quitte à ce que ce soit des histoires plus impersonnelles pour voir comment lui les raconte, et aussi parce que ça fait du bien de voir un cinéaste qui tente d'autres choses. Voilà. C'est ce qu'il a plus ou moins fait avec John F. Donovan, et c'était marrant parce que moi, ça m'avait absolument pas convenu, et j'étais le premier à me dire j'ai envie qu'il revienne dans sa zone de confort. Et maintenant qu'il y est, même si là j'ai pas mal défendu le film, je suis quand même dans cet entre-deux. Je suis content d'avoir retrouvé des thématiques dans lesquelles il m'a mis à l'aise et dans lesquelles je savais qu'il allait bien m'en parler et sur lesquelles ça m'a plutôt satisfait. Mais à la fois, oui, il y a aussi un manque, il y a aussi des scènes trop longues, il y a aussi un côté trop abouti pour ce que ça propose et que c'est un sujet plus court que ce qu'il n'y paraît. Et peut-être en effet, il peut faire autre chose quelque temps, quitte à revenir sur ce genre de sujet plus tard, parce que comme je le disais, à différents âges de la vie, t'en parleras d'une différente façon. Donc j'ai envie de le revoir me parler de ce genre de choses dans quelques années. Mais j'ai envie de le voir tenter une fois de plus d'autres choses. Pour les métrages à venir, ce serait chouette.
Eh bien, peut-être t'auras-t-il écouté pour le prochain film. C'était notre avis sur Mathias et Maxime.
Vous, vous êtes étudiants tous?
Oui. Et toi, tu es journaliste?
Je fais de la photo, moi, juste. J'ai 25 ans.
25 ans? T'as pas peur?
Non.
La Centrafrique retient son souffle. 13 personnes sont mortes il y a 3 jours au nord de la capitale.
Et c'est les cas sont passés porte par porte, ils ont tué mon voisin, ils sont entrés chez moi.
Camille Lepage, photojournaliste de 26 ans, couvre le conflit en Centrafrique entre les années 2013 et 2014. Alors qu'elle accompagne la milice anti-Balaka, les militaires sont pris dans une embuscade des Silica. Elle sera tuée sur le coup avec plusieurs soldats, dont le chef du groupe. C'est un peu dur là, j'ai pas trop envie de... C'est pas un film qui nous fait sourire. Là, on sort de la salle, on est encore sur le coup. J'aime pas cette vieille formule, vous en sortirez pas indemne, parce que je l'ai vu 36 fois sur plein de films. Hein, donc faut pas dire ça. Mais j'avoue que là, on n'a pas fait les malins pendant une heure et demie. Donc on sort de Camille, de Boris Lojkin, un film qui sort le 16 octobre 2019, avec Nina Meurice dans le rôle de Camille Lepage. Et on va suivre justement donc la jeune photojournaliste pendant ces deux années en Centrafrique.
C'est même pas deux ans, je crois que c'est moins d'un an en fait. Parce
c'est la dernière année en Centrafrique.
Oui, c'est ça, parce qu'elle y va sur les coups de fin 2013, vers septembre 2013, et elle se fait tuer en mai 2014. Donc c'est assez court au final comme période.
Ouais, mais elle a le temps de faire quelques allers-retours. On est sur à peu près une année, à peu près en temps sur le film. Pour résumer vite fait, c'est vraiment dans les grandes lignes. Les Silica font régner la terreur dans le pays. En résistance, la milice anti-Balaka se forme et il va y avoir des représailles. Et en plus, donc les Silica qui rasent les villages, tuent, pillent, entre autres, assassinent un juge par exemple, ou autre. Et en représailles, comme les Silica sont musulmans, eh bien la population va s'en prendre aux musulmans de la population, qui sont pas forcément Silica, mais il y a une grosse confusion, il y a une certaine sauvagerie entre guillemets, mais c'est parce que c'est un temps de crise, c'est un pays en guerre, et on a justement tous les débordements, tous les extrêmes, toutes les horreurs finalement d'un pays en guerre. Et ce film ne nous les épargnera pas. On va suivre la photojournaliste, la photographe qui va justement assister à ces massacres, à ces horreurs, et qui va les prendre de plein fouet.
Mais c'est vrai qu'on est sur une période qui est extrêmement confuse aussi, puisque même les combattants savent à la fois pourquoi ils se battent et à la fois ils le confondent. Puisque, bah, comme tu le dis, on nous met dans le conflit armé après le coup d'état des Seleka, qui du coup, comme tu le dis, voilà, est juste une faction musulmane du pays qui a décidé de prendre les armes à la fois pour prendre le pouvoir, parce que, bon, je sais pas ce qui était au pouvoir à ce moment-là, mais qui considèrent que ça leur convient pas, et aussi pour assassiner les chrétiens. Et du coup, les chrétiens décident de devenir les anti-Balaka par rapport aux Kalachnikov. Balaka, voilà. Et eux aussi, donc, du coup, vont au début suivre les endroits où les Seleka commettent leurs exactions pour les poursuivre. On voit un moment d'ailleurs où ils sont dans un village qui vient d'être attaqué. Donc, du coup, on sait qu'ils attaquent là des Seleka, qu'ils attaquent des factions armées qui sont clairement leur ennemi. Mais aussi en profiter, enfin, en profiter, pas en profiter, non. Mais vont aussi, donc, du coup, comme tu l'as dit.
Ils en profitent clairement, c'est le terme.
Mais vont aussi chasser les musulmans, en emprisonner certains juste sous couvert de leur religion, les massacrer. Et donc, du coup, après, ça crée des représailles de représailles. Donc, ensuite, on est sur le point, et c'est ce que Camille Lepage essaie de mettre en avant, on est sur le point où il ne va pas y avoir que les Seleka comme ennemis. Il va aussi y avoir des musulmans qui vont se dire c'est pas normal qu'on se fasse massacrer, nous aussi, on va prendre les armes et se battre contre ça, alors qu'on n'est pas d'accord avec les Seleka, initialement. Du coup. Ça crée cette espèce de confusion, ça joue sur les amalgames, c'est un conflit qui est très complexe en fait.
En gros, on va suivre ce que voit la journaliste, donc, qui n'est pas tout, mais qui sont donc les fameuses horreurs. En plus, on a un personnage, donc Camille, qui est une journaliste qui est idéaliste, qui va là-bas dans l'espoir de faire changer les choses, hein, pour montrer un peu ce qui se passe, pour faire réagir la communauté internationale. Ça marche plus ou moins. Et c'est aussi le portrait d'une idéaliste qui se laisse prendre et qui s'attache trop à un pays. Parce que, donc, va y avoir la situation, elle va croiser d'autres journalistes, elle va être en relation avec un journal, avec Libération en question, mais ça aurait pu être n'importe quel autre, qui lui dit bon, t'as fait la Centrafrique, très bien. Tu veux pas aller en Ukraine ou ailleurs, enfin, je veux dire, tu vas pas rester là tout le temps, ça y est, on en a parlé, on passe à autre chose. Il y a l'opposition des points de vue aussi. Il y a le journaliste qui lui dit oui, alors attends, nous, on peut pas être à leur place, on fait que prendre des photos, on sera jamais à leur place, on peut pas comprendre ce qu'ils vivent, on peut que prendre des photos. Donc ça sert à rien de s'éterniser sur un lieu. C'est pas chez nous, quoi. Et alors qu'elle, elle va sympathiser avec la population et s'installer.
Et s'impliquer.
Ce qui pose la question, qui lui prend ses photos, puisque les journaux s'intéressent à autre chose. Mais c'est pas le sujet. On a justement sa vie. Alors c'est un peu romancé. C'est une œuvre de fiction, c'est précisé. Donc c'est inspiré de son expérience, c'est inspiré de ses photos. D'ailleurs, le film est ponctué
par les photos de la vraie Camille Lepage, les vraies photos qu'elle a prises en reportage, en accord avec la famille bien sûr. Et donc ça marque un peu la puissance, ça souligne finalement le sujet, ça donne quelque chose de vrai. On a quelque chose de très prenant, moi je suis encore un peu étouffé parce que ça commence, on est étouffé, on sent qu'on est en tension, on sent que ça peut péter à tout moment. Quand on est avec une faction, on est là de près, on a des mecs qui sont énervés en face, ils sont nombreux, il faut se faire respecter, mais quand même, faut pas trop les énerver non plus, sinon ça peut partir en sucette parce que tout le monde a une machette ou un flingue ou un truc. On sent une grosse pression en permanence, même le film commence, on est avec des militaires français, même eux, ils font pas les malins, quoi.
Mais tu ressens énormément d'empathie pour tout le monde, pour les combattants, quel que soit le camp, parce qu'au final, on sait pas d'où c'est parti tout ça, et on nous le dit pas, de toute façon, c'est juste un pays en crise. Et oui, tu ressens tant d'empathie pour les combattants, pour les victimes, pour tout le monde. Et surtout, tu te dis, quand on voit des fois, tu vois, beaucoup de fictions sur les gens qui reviennent de conflits guerriers et qui sont cramés à vie. Et ces gens-là, de toute façon, même s'ils arrivent à ramener la paix dans leur pays, ils sont cramés à vie, c'est fini. Tout ce qui reste, c'est la rage, et c'est tout ce qu'on voit. Même, tu vois, les passages où Camille vient et se présente, ils sont directement dans le conflit, ils sont directement dans l'attaque, dans la défense. On est face à des gens qui sont enragés. Il y a, comme tu le dis, c'est romancé. De toute façon, j'imagine que même s'ils sont allés tourner en Centrafrique, ils n'ont pas forcément rencontré beaucoup de monde ou très peu de gens qui ont pu connaître Camille Lepage et leur donner des témoignages cohérents sur tout ce qu'il a pu se dire.
Je crois qu'ils se sont plus inspirés de son travail à elle, de ce qu'elle a écrit elle-même et de ce qu'elle a reporté. Fait.
Après, voilà, ils ont peut-être eu à voir, ils ont même un journaliste qui joue son propre rôle là. Et qui du coup a pu sûrement donner plus d'informations. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que ça ne romance pas tant que ça. Ça reste sur le conflit, ça reste sur le rapport au conflit. Et les seuls passages à la limite romancés sont des passages quand elle revient en France et qu'elle revoit sa famille ou qu'on la voit discuter, faire des petits repas, le fait qu'elle aime aussi ses proches, des gens qui au début étaient un petit peu hésitants quant au fait qu'elle allait partir à l'autre bout du monde et qui finalement la soutiennent. Il n'y a pas tant de scènes qui font penser à un côté « on va te faire un portrait total de cette nana ». Au final, ça pourrait être n'importe quel photojournaliste, ça nous montre surtout la situation des photojournalistes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit tous les autres personnes avec qui elle va travailler. Et c'est ça qui est intéressant. Ça te met dans la peau de ces personnes qui sont au cœur des conflits, de conflits qui ne les concernent absolument pas et qui sont prêts à aller dans des situations quand même très dangereuses. Là où c'est pas ton conflit, quoi. Tu n'es pas obligé d'y aller. Moi, j'aurais jamais le courage, enfin en tout cas là... Actuellement, j'ai pas le courage d'aller faire ça. Et c'est fou de se dire que pour pouvoir retranscrire une situation, on est prêt à se mettre en danger à ce point. Et ça, c'est super intéressant.
Donc, un film fort, prenant, et d'autant plus si vous intéressez un peu au photojournalisme, à la photo, enfin, à ce métier-là, c'est un film à voir absolument. Parce que c'est très prenant, et puis pour le film en lui-même. Donc, ouais, non, si vous intéressez au photojournalisme, courez voir Camille. Donc gros coup de cœur, une claque, voilà. Ça aussi on le dit beaucoup, une claque, hein, je trouve. Mais cette fois-ci c'est mérité. Voilà, Camille de Boris Lochkine avec Nina Meurice. Voilà, sortie 16 octobre, on l'a dit mais je le répète parce que j'ai bien aimé.
Histoire, géographie, élève sérieux.
Le bonheur que tu donnes à tes parents, mon fils.
Bon, c'est pas facile, mais je m'accroche.
Il y a un F à philosophie.
Mais bien sûr qu'il y a un F, c'est du grec. Hein.
Patrick, la caisse de ton magasin, c'est pas ton argent de poche.
T'inquiète pas, je remets tout demain.
Je te donne ma parole que c'est la dernière fois.
Je bosse comme un malade maintenant.
C'est pour ça que t'es encore en pyjama à midi moins 20.
Oui.
La femme, elle veut te parler.
Allô?
J'ai envie de toi.
Bien sûr, à la Finkelstein.
La vérité sigement, le début de Michel Mounz et Gérard Bitton. On prend un accent et ça fait l'affaire.
Ah ouais, le film il est tellement raciste que même si toi tu fais du racisme à côté ça passe, c'est pas grave.
La vérité sigement, on prend les personnages de la vérité, c'est-à-dire les personnages de Patrick Dove, Serge et Yvan. On remplace les vieux acteurs par des jeunes, qui sont un peu des copier-coller, sauf peut-être le jeune qui fait Yvan, qui à l'époque était joué par Bruno Solo, là c'est Jérémy Levin, fait le Lévin. Qui est un sosie de Richard Anconina. C'est assez gênant, ça a perturbé Thierry qui n'avait pas vu le premier, il ne savait plus qui était qui. Bon, en gros, on est sur une origin story de La Vérité Sigement. C'est avant l'arrivée de Richard Anconina. Enfin, je ne sais même plus comment s'appelle son perso d'ailleurs. Je crois qu'on s'en fout. Bon, en gros, c'est les mêmes persos mais en plus jeunes. On reprend les sketchs des précédents et on en fait un film. C'est les réalisateurs du film étaient à l'époque producteurs et scénaristes. Alors Thierry, aïe 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 ou youyouy?
Ah, il voulait de la technologie pour rajeunir les visages, mais Scorsese, il a dit non, et Angli, il a dit « Ah, j'ai niqué tout le budget ». Alors, vu qu'il n'y a pas d'argent, bah, on fait un mauvais film.
Comment est-ce que tu as perçu le film, toi qui n'as vu que le 3, qui est franchement le pire de la trilogie ?
Bah, moi, il a fallu que je te pose des questions à la sortie du film, parce que je me suis quand même... J'ai eu des questionnements. C'était sur le caractère des personnages. Je me suis demandé, est-ce qu'ils ont juste pris des personnages pour faire les mêmes archétypes, mais en plus jeune, pour montrer « Ah, regarde, c'est les blagues que t'aimes bien avec eux, mais ça se passe avant. » Ou est-ce que c'est une origin story ? Mauvaise ou pas, on s'en fout, mais est-ce que par exemple ils vont montrer comment certains personnages sont arrivés à tel ou tel ou tel caractère ? Et a priori, de ce que tu m'as dit, à part un, non, c'est juste les mêmes qui ont les mêmes choses, donc du coup il n'y a aucune explication sur comment ils deviennent comme ça, juste, ils sont toujours comme ça, t'as vu, ils n'ont pas changé, ils sont super drôles. Donc ça n'a absolument aucun intérêt, ce film ne raconte rien, c'est du gros vent qui fait juste des blagues en fait, qui raconte, il n'y a pas vraiment de trame à part bouillir. Une trame sur un perso, le reste on s'en fout quoi.
C'est le but d'une comédie, non ? Faire des blagues ?
Mais le but d'une comédie, c'est aussi de raconter quelque chose. Il y a toujours un point d'ancrage, un début, une fin. Là, il y en a un. Mais c'est juste un prétexte quoi.
C'est un gros prétexte, il n'y a pas vraiment d'évolution de personnage. Alors, dans les persos, dans les scénarios, enfin, dans les personnages développés, donc Patrick Abidwal, joué par Yoann Manka, c'était le personnage de Gilbert Melki à l'époque. Donc c'était celui qui a réussi, celui qui a fait du pognon, celui qui a fait du blé. Gilbert Melki d'ailleurs qui joue son père dans ce film-là. C'est peut-être le personnage qui a une évolution. Au début il est dépensier, il n'est pas très sérieux, puis il tombe amoureux d'une fille, et puis ça se passe mal et du coup il devient un requin dans les affaires. Voilà.
Lui c'est le seul qui change de caractère parce que tu vois, donc dans l'autre personnage le plus développé, je dirais que c'est Serge.
Oui, qui était joué à l'époque par José Garcia et là c'est Anton Xazar.
Quand on dit développé, évidemment, c'est juste celui qui est le plus montré à l'écran après Patrick. Et donc lui, du coup, son arc, c'est... il est censé avoir le bac, mais il en fout pas une, c'est un petit con. Bon, à la fois, il est bizuté par les autres élèves, mais à la fois, il en glande pas une non plus. Il ment à ses parents jusqu'à leur faire croire qu'il a le bac, jusqu'à leur faire croire qu'il a des bonnes notes, jusqu'à leur faire croire que c'est un super élève. Et il s'enfonce dans ses mensonges au fur et à mesure que ça commence à se découvrir. Et à chaque fois, au final, qu'il a une occasion avec une fille, elle lui fout un gros vent. Donc ça, je t'ai demandé, je t'ai dit, est-ce que à cause de ça, par exemple, c'est quelqu'un qui va se dire, oulala, à partir de maintenant, mon leitmotiv, ce sera la vérité, et que c'est son caractère dans les autres? Non, il est tout le temps comme ça. Donc du coup, voilà, c'est juste, ils ont fait les mêmes. C'est, t'aimes bien les blagues avec ce mec-là, ben on va te les faire, mais en plus jeune.
C'est ça, c'est exactement le même perso en plus jeune. On a également Dove. Alors Dove, il était joué à l'époque par Vincent Elbaz, puis par Gad Elmaleh, puis par Vincent Elbaz. Et alors Vincent Elbaz, de ce que j'ai cru comprendre, il voulait jouer dans le film pour jouer son père, mais on lui a expliqué que le personnage étant orphelin, c'était compliqué.
On a dû lui expliquer ça. Donc alors attends, un mec qui a joué ce rôle pendant donc deux films, il ne connaît pas les origines de son propre personnage, c'est triste.
Comme beaucoup d'acteurs.
C'est Gwyneth Paltrow qui le jouait en fait.
Ah bon, je suis dans ce film. Petit personnage de Dove là. C'est un séducteur, bah, c'est celui qui nique les gonzesses tout le temps, et, bon, avec qui les femmes trompent leur mari. Donc là ça montre juste qu'il est beau gosse et qu'il est vendeur et beau gosse. Et donc c'est sa première grosse conquête, on va dire. Sa première conquête. Et comment est-ce qu'il a mis le pied en tant que vendeur ? Donc oui, il n'y a pas une grosse évolution, si ce n'est que c'est un bon vendeur et un bon amant. Et après, on a tous les schémas. Donc une fois qu'on a fait les persos, je parle pas du perso d'Ivan parce qu'il est un peu effacé. Un peu comme dans La Vérité si je mens d'ailleurs, le perso d'Ivan est souvent effacé. Toi, ça t'a fait chier, c'était pas terrible au niveau du scénar. Il faut se dire que ce sont tous les vieux ressorts qu'on a vus dans les précédents films. C'est-à-dire qu'ils vont monter une arnaque à la fin pour embrouiller l'antagoniste principal. Et se refaire ou régler la situation. On a exactement les mêmes schémas qui se répètent exactement. Les sketchs sont les mêmes, les personnages sont les mêmes. Il y a des références aussi, par exemple, le personnage de Patrick, sa télé marche pas. Donc ça fait référence au premier épisode où il arrive chez lui, il a le câble qui marche pas. Voilà, on a les vieux réflexes, les vieux gimmicks qui reviennent. Mais c'est vrai que si on n'a pas vu les premiers, on manque ça. Et alors... Je pense que c'est un film qui va surtout parler aux nostalgiques du premier et du deuxième aussi, et qui ont été peut-être très déçus par le 3.
Non, est-ce que les gens qui apprécient les deux premiers films et n'ont pas aimé le 3 ont envie de revoir un schéma exact du premier ? Non, ils ont juste peut-être envie de revoir les films qu'ils aiment. Je préfère un truc qui divise mais qui propose plutôt qu'un truc qui est juste là pour te raconter, de passer de la pommade sur le dos, quoi. Qu'on se comprenne, hein. Moi j'ai vu que le 3 c'était de la grosse merde. Je connais pas le niveau des deux premiers. Si c'est de ce niveau là, j'ai absolument pas envie de les voir. Moi c'est des films qui m'ont jamais attiré. Mais ça sert à rien. Enfin, Si, c'est comme faire des suites où tu copies exactement le schéma juste pour dire t'as vu, t'aimais bien ça, hein. Oui, bah dans ce cas, tu regardes ça. Je pense qu'on a demandé à ces jeunes gens de jouer des archétypes de juifs, hein, on va dire le terme.
Aïe, 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 je vois pas du tout de quoi tu veux parler.
Tu fais un accent, sauf que c'est pas naturel. Et donc, du coup, ces mecs-là sont sûrement pas des acteurs excessivement pros parce que une phrase sur deux, ils font pas l'accent. Tu vois, je te parle comme ça, putain, d'accord, je te parle comme ça, t'as vu la vérité. Et puis, attends, en fait, en réalité, je parle comme ça. Et alors, au début, je me dis, est-ce que c'est des mecs qui se forcent à être comme ils sont? Et après, il fait, mais non, c'est ma façon de parler, qu'est-ce qu'il y a? Tout le temps, ils oscillent en fait. Donc, t'as l'impression que souvent ils oublient, mais quand il faut appuyer les phrases, on leur dit là, tu fais l'accent. Là, oh là, il l'a pas fait. Ouais, c'est pas grave, on va pas lui refaire faire la prise, Camille. Il arrive pas à le faire. Là, tu le fais, hein, là, tu le fais. J'ai l'impression que c'était tout le temps comme ça en fait, la direction. C'est ignoble. Et donc, du coup, voilà, sous prétexte qu'ils font des archétypes qu'on aime bien, c'est censé nous plaire. Je vois pas du tout ce qu'ils essayent de faire, d'accomplir, en tout cas, ce qu'ils essayent de rendre plaisant dans l'écriture avec ce film.
Bon, alors, je vais te dire un truc, les réels. Alors je sais plus qui avait réalisé quoi, mais ils avaient commis Ah si j'étais riche et Erreur de la banque en votre faveur aussi. La vérité, faut pas y aller. Dans le film, Patrick Habitbol et Yvan tiennent un magasin de cassettes, de vidéos. Eh ben, je pense qu'il vaut mieux aller retrouver votre vieille vidéo de La vérité si je mens 1 et 2. Vous passerez un meilleur moment.
Ça me fait un peu l'effet Visiteur 3. Tu sais, le côté... Les mecs qui ont fait ce film, on n'en a rien à foutre de sa qualité et se disent, sur les persos, ça va marcher.
Passons à autre chose qu'on espère mieux.
Sean's back, but there's a new arrival in town. Who's a little alien. Meet Lula.
Lula.
She's a little mischievous.
Sean le mouton, la ferme contre-attaque, Farmageddon en VO, ça pète. Nouveau film d'animation stop motion, pâte à modeler, des studios Hardman, enfin la famille, les créateurs de Wallace et Gromit. Un film d'une heure trente pour toute la famille, bon surtout pour les plus petits, ok. On retrouve les aventures du fameux mouton facétieux et malin, et qui s'amuse avec ses amis, et il reçoit la visite d'un voyageur de l'espace, d'un extraterrestre. Rencontre du troisième type, pour le grand et petit, Thierry. Tu as été sous-coupé par ce film ?
Pas tant que ça. Et c'est dommage parce que le premier Sean le Mouton m'a beaucoup plu. Enfin, la première adaptation filmique qu'ils ont fait, parce qu'à la base c'est une série. Et puis Hardman en général, ça fonctionne plutôt bien sur moi. Là, on a quand même retrouvé tout leur univers. On retrouve le côté très facétieux. Moi, je veux dire, tous les petits clins d'œil qu'il y a partout, ne serait-ce que quand tu parles d'un film de premier contact, qui est limite un remake d'E.T., et ils sont à côté d'un garage qui s'appelle H.G. Wells. Ça m'a fait rire que je suis là, tiens, la guerre des mondes, sympa. Il y a plein de petits détails comme ça un petit peu partout. C'est très fouillis, c'est très détaillé. Mais soit c'est le rythme, soit c'est les blagues qui pêchent un petit peu. Mais ça m'a pas excessivement convaincu en fait dans l'exécution.
Alors moi je partage pas ça. Je me suis régalé. Alors j'étais peut-être pas à fond pendant tout le film. Je reconnais que c'est peut-être pas aussi bon que le premier. Que le premier j'avais pas décroché. Mais on reste quand même... On est quand même dans le même moule, même si c'est pas exactement les mêmes réalisateurs. La recette est là, il y a énormément de références, même si ça s'adresse aux plus petits et les sketchs, les gags sont essentiellement pour les petits. On retrouve beaucoup de références à tout moment, et là surtout sur la science-fiction. C'est le studio qui a voulu faire de la science-fiction, et on a ben, justement les petites références musicales, les petites références d'auteurs. Moi j'ai adoré le passage quand ils vont dans la base secrète, il y a une espèce d'agence du gouvernement, des hommes en noir, quoi. Enfin, une femme en noir et après il y a les hommes en combinaison. Et bon, ils sont tous très couillons, donc c'est très drôle. Et il y a plein de références. Alors, quand t'es petit, tu les as pas. Mais quand ils font le son là, de rencontre du troisième type pour ouvrir la base, ou quand il faut siffler X-Files pour ouvrir une porte, ça fait marrer.
Les références sont pour les plus grands et les sketchs sont pour les plus petits. Je pense que j'aurais aimé qu'il y ait un effet Neverland en fait, je m'explique. Dans le film Neverland qui avait été adapté qui était une adaptation de la vie du créateur de Peter Pan, John Barry donc demande en fait pour l'ouverture de la pièce qu'il y ait plein d'enfants de l'orphelinat du coin, je crois, qui soient mis dans la pièce, enfin, dans la salle, je veux dire, et qui soient placés à côté des adultes. Donc au début, les gens sont là, ils vont faire du bruit, ça va être affreux. Et puis au final, ben, les gamins, eux, sont totalement charmés par ce qu'ils voient et se mettent à rire. Et donc du coup, les adultes se prennent au jeu. Là, je pense qu'il y aurait eu plus de gamins dans la salle, j'aurais été beaucoup plus charmé. Parce qu'avec les rires des gamins, parce qu'il y avait 2-3 gamins qui rigolaient, je suis sûr que ça aurait été hyper communicatif et on se serait tous pris au jeu. Mais au final, ouais, le caractère peut-être un peu trop enfantin m'a un peu laissé tomber dès le début. Et même si les références étaient plaisantes à voir, j'ai pas été embarqué.
Moi, j'avais de l'empathie pour la méchante. Par exemple, j'étais touché, moi, ça m'a parlé. Parce que je suis un grand enfant, très bien, mais quand même.
Ah non, mais malgré tout, il y a un... Enfin, dire que j'ai pas été embarqué veut pas dire que j'ai pas été charmé non plus. C'est mignon à souhait. Et surtout, il y a toujours ce petit côté innocent, en fait, dans ce genre de film qu'il y avait aussi dans Chicken Run, qu'il y a aussi dans Wallace et Gromit. Il y a pas de réel méchant, tout le monde est un enfant, en fait. Et ça nous rappelle ça, surtout. C'est ce qu'ils ont toujours fait, c'est ce que font beaucoup de films d'animation axés sur les petits ou... À part les adultes qui généralement peuvent être... Enfin, on a la distanciation avec les adultes, mais c'est jamais des méchants pour autant. Et là, oui, justement, c'est un film où tout le monde est mignon, quoi.
Ouais, c'est mignon. C'est le film que j'attendais le plus cette semaine, et je n'ai pas été déçu. Voilà, c'était ce que j'attendais. J'étais content en sortant de la salle. Voilà, c'était peut-être pas plus que ce que j'espérais, mais c'est pas moins. Et je pense que si vous avez des petits, c'est la bonne sortie du week-end. Voilà.
C'est chouette de voir, en fait, ça me fait penser un peu à Minuscule qu'il y a eu en début d'année et qui était super beau à regarder. Ça fait plaisir de voir des films qui ont cette espèce de côté traditionnel dans les fonctionnements, dans les effets. Voilà. C'est hyper galère de faire un film comme ça. Ça prend du temps, c'est long, c'est fastidieux et on prend encore le temps de le faire. Ça fait plaisir, quoi.
Un film à pâte à modeler qui rentre bien dans le moule.
I just want to take care of my grandma, maybe go shopping every once in a while.
When I was a kid, I always wanted to work with animals. I was close.
These Wall Street guys. You see what they did to this country? They stole from everybody. Hardworking people lost everything. And not one of these douchebags went to jail.
The game is rigged, and it does not reward people who play by the rules.
It's like robbing a bank, except you get the keys.
Queens! Jennifer Lopez et ses biatchs de copines. Non. Elles s'appellent biatch entre elles, donc ça va, c'est bon, on a le droit.
Mais tu peux, oui, non, ça, franchement, ça me choque pas, je le garde. J'ai rigolé, mais tu peux dire Jennifer Lopez et ses biatchs de copines.
Jennifer Lopez et ses biatchs de copines sont les reines du strip club de New York et elles se font un max de blé avec les escrocs de Wall Street. Les banquiers, pardon, de Wall Street. Oh, plus haut, ça va.
Les escrocs de Wall Street.
Voilà, c'est un synonyme. Pléonasme même. Jusqu'au jour où la crise finit par frapper. Et donc, il faut prendre tout le pognon qu'il y a. Et là, il n'y a plus de morale. Elle n'hésite plus à droguer les clients pour gratter tout ce qu'il y a à gratter. Et leur prendre leur carte bleue et les ruiner. Hélas, le pognon leur monte à la tête. Elles finissent par se faire gauler. C'est avec Jennifer Lopez. C'est avec Constance Wu en Destiny. Un beau nom de stripteaseuse qui aura le rôle principal, la jeune danseuse qu'on va suivre. Il y a aussi Cardi B qui passe, voilà. Je dis ça parce que c'est une rappeuse super connue que j'ai découvert avec ce film.
J'aime bien les passages avec Guy Marchand. Destiny.
Très bien. Alors donc, un film d'escroquerie, un film de gangster avec le Rise and Fall, plus des scènes de striptease, c'est quand même un super mélange, non ?
Même si le film est excessivement classique dans absolument toute sa narration et que c'est un film de gangster parmi tant d'autres, il est dans un milieu qu'on n'a pas forcément vu et des nanas qui font des arnaques au striptease de cette manière-là, c'est pas forcément quelque chose de courant. Dans l'idée, c'est cool. Moi, j'ai bien aimé le côté, au final, très... comment dire ? Relâché de la manière dont c'est montré. C'est-à-dire que c'est une nana qui filme des nanas qui n'hésite pas à tout montrer, qui te dit tu veux voir à quoi ressemble le milieu. Ça me fait penser un petit peu à ce que j'avais bien aimé dans Showgirls de Verhoeven. Le côté, si on te montre ce milieu-là, on te le montre pas de manière pudique, parce que c'est pas un milieu pudique. Ce film est très 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 vulgaire, mais c'est un milieu qui se veut très très vulgaire. Donc en soi, tout cet univers-là, Wall Street, le striptease, la thune, la coque, tout ça, c'est excessivement exagéré. Donc en soi, c'est pas dérangeant. Du coup, je sais pas tant, j'ai pas spécialement adoré le film. Mais j'ai trouvé que la façon dont il était traité était très pertinente.
Elle avait disparu pendant 2 films, elle revient, la reine de claque, la queen de claque, Hera.
Salut. C'est marrant Thierry que toi tu aies vu quelque chose d'assez exagéré, de poussé, de... Moi je trouvais ça très très lisse. Pas pour autant ni mauvais ni chiant, parce que c'est tellement rythmé qu'en fait on passe pas un moment que si mauvais que ça, et puis c'est teinté de pas mal de points d'humour plutôt bien amenés, donc c'est fun. C'est fun, on passe un moment assez agréable, tout aussi vite oubliable hein, par contre. Hein, ça, clairement, tu sors du film, t'es là, oui, bon, ok, ça a existé. Par contre, j'ai trouvé ça vraiment lisse et taillé grand public. Ça a pas la prétention de faire, de toute façon, on n'était pas sur un film d'auteur de base, hein, mais. La manière dont on montre la coke, la manière dont on montre le fait que dans les clubs, parfois, ça parte un petit peu en prostitution, gentiment, c'est très light. Et quand ils disent on est face à des clients qui, parfois, peuvent aller loin, des personnes qui peuvent frapper, des personnes qui peuvent faire du mal, tu vois rien de ça. Tu vois rien de ça, ça reste toujours hyper lisse, même quand elles se mettent donc à droguer, à utiliser la drogue pour pouvoir continuer d'arnaquer des mecs au placé. Même ça, c'est super chill. Elle met un petit peu de MD Keta dans le verre. Le mec, il boit. Finalement, ça va, il s'en sort pas si mal. Ça ne finit jamais mal. Ça ne part jamais loin. Ça reste toujours vachement dans les clous. C'est ça aussi qui rend peut-être le truc un peu fun. Et c'est pas le gangster sanglant avec du meurtre, quoi.
Alors attention, on voit des tétons de temps en temps. Quand on connaît la pudibonderie et les politiques de confidentialité des sites internet américains, waouh, je crois qu'on est au top
ouais.
de ce qu'on peut faire.
Non mais c'est pas un film qui me choque, absolument pas. Mais je trouve que c'est plus dans la manière dont c'est montré, avec le côté extrêmement clinquant. Ça te montre un côté, enfin, plus dans la vulgarité de la chose en fait. Sans forcément te montrer des nanas à walp avec du fluide, avec tout ce qui pouvait être très crade dans ce truc-là. C'est très clinquant, c'est très néon, c'est très musique assourdissante tout le temps. Enfin voilà, c'est en ça que j'ai trouvé que c'était aussi assez représentatif. Enfin moi, en tout cas, je sais que si un jour on m'a mis dans un club de striptease, vu que je suis pas spécialement... accro à ce genre de musique déjà qui y passe, et connaisseur de ce milieu, je sais que j'apprécierais l'expérience, j'en sais rien, mais je sais que pendant au moins les premières heures, avant de choisir soit de rester là-dedans parce qu'au final je kiffe, soit de me casser, je serais dans cet état-là, en mode j'ai l'impression de me prendre un truc assourdissant où je capte rien, où ça va très vite, pendant 2 heures quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est effectivement très clinquant. Les scènes sont plutôt bien foutues, la lumière dans le club est assez jolie, la manière dont les plans soulignent, c'est plutôt bien mis en scène, c'est assez sympa.
Oui, ça souligne, c'est le terme qu'on va garder.
Bah, mais mine de rien, oui, parce que c'est plutôt appréciable, moi je préfère voir ça plutôt que de voir un réal qui va aller s'attarder sur des culs, qui va rendre ça crade. Je préfère que ce soit un peu... Je suis un peu partagé parce que j'aurais bien aimé voir un peu du plus crade dans certaines scènes, plutôt quand elles arnaquent les gens, qu'on voit le côté vraiment, parce que donc on l'a dit, un rise and fall. J'aurais bien aimé voir le côté fall, vraiment, parce que là le fall il est tout léger, c'est du pity fall, c'est tranquillou. J'aurais bien aimé voir un truc peut-être un petit peu plus amené, mais bon. Je me marrais sur la scène où elles étaient en train de baser, parce qu'à un moment elles se mettent à baser de la drogue, et ça me faisait marrer parce que tu les vois avec leurs longs ongles roses, leurs grosses boucles d'oreilles, toujours le make-up ultra extravagant avec les petits tops où on voit le nombril, elles sont en train de baser de la drogue et elles en prennent un peu, elles s'endorment quoi, et c'est complètement risible. Elles sont hyper marrantes parce qu'en fait elles te montrent une apparence où elles maîtrisent tout, mais tout en restant hyper belles, donc c'est hyper propre, alors qu'elles font des trucs, elles maîtrisent, elles sont quand même sur un terrain qui est quand même crade, où t'es pas forcément censé sentir bien.
C'est très très clip de rap. Il y a Cardi B qui est dedans, il y a Usher qui passe, et Usher c'est vraiment, il débarque, c'est clip de rap quoi. C'est-à-dire à peine il arrive, on sait qu'il est dans la boîte, il y a toutes les danseuses qui sortent des coulisses pour aller danser comme ça sur la scène parce que c'est Usher et qui les arrose de billets. Donc ça fait vraiment très clip et tout est nickel. C'est pas, il y a du pognon, il y a des billets, il y a des meufs qui dansent, tout est nickel, il y a pas un truc qui dépasse. J'ai jamais mis les pieds dans des coulisses d'un bar à striptease, mais quelque chose me dit que c'est pas aussi clean que ça.
Ouais, voilà. Je pense aussi, bon, un peu pareil, je connais pas non plus les coulisses des bars de striptease, mais à mon avis c'est un petit peu plus glauque. Je pense pas que ce soit toujours tout clean comme ça. Bon, après là, ce qui a été choisi d'être montré, c'était ça, donc pourquoi pas. Mais après, plus encore que juste le côté, on parle du côté film de gangster et Rise and Fall, ok, mais plus encore, moi je trouve que c'est vraiment un film sur l'amitié, la dévotion et le côté, la manière dont Jennifer Lopez, en fait, elle prend ses pouliches, je ne sais pas trop quoi dire, mais bon, elle prend sa petite équipe autour d'elle, elle mène sa petite barque, elle monte son business, ça devient la grande patronne, ça fait un peu patronne de maison close, limite, à l'époque, bon, après, cercle d'arnaque, et c'est limite plus un film sur la loyauté et la dévotion et l'amitié, parce qu'elles prennent toutes soin d'elles, donc il y a un côté aussi assez beau là-dessus, sur comment est-ce que, parce que quand tu te retrouves, enfin là en tout cas les nénettes qui se retrouvent en train de faire du striptease dans ce club, c'est pas des nanas qui viennent de bonne famille, et c'est pas des nanas qui ont une vie familiale et amicale équilibrée, c'est des nanas très esselées, qui ont déménagé à New York, qui sont un peu paumées, ou qui se sont fait virer de chez elles. Et donc elle trouve chez le personnage de Jennifer Lopez une nouvelle maman, une nouvelle famille, et elle s'appelle entre elles les sisters. Donc pour moi c'est limite plus un film un peu là-dessus, sur cette cohésion que tu peux avoir dans un groupe, et c'est ça aussi qui les émule et qui les fait autant aller loin dans la créativité pour pouvoir arnaquer les autres.
Mais ça c'est quelque chose qui est pour le coup très habilement souligné par la mise en scène, puisque tu remarqueras que même si bon, la plupart du temps, voilà, ouais, elle va être la classe, mais il n'y a que quand Jennifer Lopez entre dans le champ qu'elle est montrée au ralenti. C'est donc la seule qu'on te montre vraiment comme la nana que tout le monde idéalise et vers laquelle elles ont envie de se rapprocher. Et c'est aussi là que tu vois l'ascendance qu'elle a sur elle, en fait.
C'est pas elle qui produit aussi par hasard le film ?
Non, mais certes, oui, mais bon, ouais, mais le personnage veut ça, on s'en fiche. Non, mais c'est juste qu'un effet qui est clinquant dans la mise en scène sert quand même le propos. Donc même ça, c'est plutôt cool.
Et quand elle emmène sa fille à l'école, il y a évidemment les autres mamans qui la regardent et qui la regardent parce qu'elle est habillée avec son petit haut top, on voit son bide, petit pantalon avec des chaînes un peu partout, gros maquillage, grosse créole aux oreilles. Et il y a juste deux regards ou trois sur elle. La musique ne change pas, le ton ne devient pas sombre. On n'est pas en train de montrer le côté... Je me tue à la tâche la nuit pour arnaquer des gens, mais le matin, je suis une mère et j'emmène ma gamine à l'école parce que c'est à mon taf, c'est à moi de faire ça et je fais ça pour elle. On ne te montre même pas un ton un peu grave, on ne renverse jamais la situation, on veut garder ce ton léger. C'est ça qui rend le film oubliable. On tomberait dans un... Voilà, c'est très superficiel. On tomberait dans un drame, ce serait un peu différent. Il y a un ton semi-dramatique qui veut s'installer parce qu'en fait, c'est un film qui est basé sur des flashbacks. On revient à un état présent où le personnage de Destiny discute avec une journaliste pour un article et raconte cette histoire. Et c'est peut-être dans ces instants-là où on va vouloir montrer le côté « Oh, regarde, j'ai un peu changé » ou « Oh, regarde, c'est un peu dramatique, j'ai perdu ma meilleure amie, etc. » et voilà ce qui m'est arrivé. Sauf qu'en fait, ça sert à peine le propos, ça sert qu'au changement de rythme, mais on ne change pas de ton et donc ça crée pas d'émotion derrière, ça veut rester vraiment très fun.
Moi, ce qui me dérange après d'un point de vue éthique là pour le coup, quand je regarde ce genre de film, c'est clair qu'il y a un côté voilà survision de la réussite par l'argent qui moi me dérange beaucoup. On est clairement en train une fois de plus de glorifier la réussite par l'argent en te disant il faut que tu fasses tout pour gagner de l'argent, c'est ça le plus important, mais fais attention à pas en gagner trop. Donc moi c'est quand même quelque chose qui moi me dérange, le côté tu réussis par la possession, tu réussis par la thune, quoi, ça me dérange beaucoup.
Ah bah oui, puis bah, c'est l'Amérique, mais c'est très américain. Quand elle fête Noël entre sisters avec toute la famille, les enfants, les grands-mères, ouais. Elles sont là pour faire la photo, elles font dites money, donc tout le monde sourit.
Non, bien sûr. Donc c'est caricatural même, voilà. Limite, mais
et juste après il y a les bénédicités, elles sont là à table alors que elles ont gagné ce pognon en droguant des mecs littéralement et en dansant nu autour, quoi. Enfin, je veux dire,
ça c'est le paradoxe américain et ça a jamais été aussi prononcé que là.
Moi je vois pas le problème en fait dans le fait de kiffer avoir des Louboutins ou de kiffer avoir un Jane Birkin.
Des Louboutins léopards s'il vous plaît.
En plus des Louboutins léopards et une grosse veste en chinchilla. Moi je vois pas où est le problème parce que c'est leur vision de choses et on a tous une vision différente de ce qu'on considère comme étant l'abondance ou le succès dans notre vie. Elles c'est leur cas, elles ont... et encore, franchement, là-dessus j'ai trouvé le film assez juste parce qu'on n'est pas en train de te glorifier... Le potentiel habituel cliché de la stupidité dans ces milieux-là ou ce genre de choses. Au contraire, on te montre des meufs qui reprennent des études, qui vont à la fac, qui justement sont hyper intelligentes et qui sont juste en train de comprendre. Moi, j'ai eu l'impression de voir limite un... Bon, ok, je vais peut-être un petit peu abuser en disant ça, mais il y a un côté de Jane Austen. Il y a un côté, je suis futé, je sais qu'un mec, si je le drague un peu, s'il est pas spécialement futé ou alors s'il a... voilà, c'est pas trop quoi faire de... Non, je vais pas dire ça, bref. Mais s'il est un peu facile à séduire, en tout cas, bah, je vais y aller parce que ça m'arrange, parce que j'ai ce réflexe de savoir que je peux utiliser mon corps pour ça. Et c'est cette manière de manipuler et pour arriver à ses fins, bah, pourquoi pas, parce que c'est leur truc et qu'elles ont compris que c'était un outil, mais elles l'ont compris. C'est pas le côté désespéré, en fait. C'est ça qui est assez sympa. C'est que elles ne sont jamais dans un état de désespoir en mode je dois absolument faire ça pour sauver ma vie, pour sauver ma peau. Elles le font toujours volontairement. Elles se sentent jamais obligées. Ça, c'est plutôt cool.
Ça, carrément. Moi, c'est juste la glorification de l'argent qui me dérange. Le reste, en soi, là-dessus, on se rejoint tout à fait. Je sais plus qui avait dit ça concernant Kim Kardashian. Vous direz ce que vous voulez, vous pouvez la traiter de pute, vous pouvez dire qu'elle vend son cul et tout ça, mais elle a compris comment le faire et elle le fait bien. C'est un monstre de business, cette gonzesse, quoi. Parce qu'elle a compris comment se vendre et comment vendre son image.
D'ailleurs, il y a une référence dans le film où on la voit passer vite fait à la télé, parce que c'est quand même une référence dans le biz.
Ce qui est juste totalement vrai.
Exactement. Vive l'Amérique. Vive les fesses de J-Lo. Vive l'argent. Bien, les Amazones concluent l'épisode. Il est temps de rendre les armes et d'enterrer la hache de guerre pour la semaine. Donc du coup, Thierry, si j'ai bien compris, pour faire un résumé de l'émission, pour avoir grâce à tes yeux, il faut faire l'accent québécois, mais pas l'accent juif séfarade.
C'est très méchant ce que tu insuffles sur moi. Si tu veux qu'on aille dans les clichés, voilà, très bien. Cette semaine, c'est plus l'accent centrafricain qui m'a charmé.
Oh, voilà. Voilà, donc c'était juste pour la vanne crasse de fin de l'émission, en fait. Cette semaine, il y avait aussi Maléfique 2 et Angry Birds 2. J'ai vu aucun des deux premiers et il était hors de... Enfin, j'avais surtout pas envie d'aller voir les autres. Et en fait, on a fait un tour de table et personne ne voulait aller les voir.
J'ai vu Maléfique 1. Ça m'a suffi à ne pas vouloir aller voir Maléfique 2.
Voilà, et j'aime bien Michelle Pfeiffer.
Quand elle en a quelque chose à foutre chez Aronofsky. Quand tu vois l'affiche là, tu sais qu'elle en a rien à foutre.
Et j'aime bien Elle Fanning aussi, mais bon, voilà.
Quand elle en a quelque chose à foutre chez Winnie Griffin, par exemple.
Là, tu pourras le caler ça là, tu vois.
En effet. Donc, il est hors de question d'aller voir ces bouses. Éventuellement. Non, mais sérieux. Non, mais on a tous les coups. Enfin, c'est pas.
On a voulu aller voir Fame, mais on s'est demandé dans les plans sur Gérard Depardieu s'il était enthousiaste de jouer dans le film ou s'il y avait un plat de choucroute devant lui. Donc, vu qu'on sait jamais vraiment déterminer l'état de Depardieu.
Non, mais c'était un Depardieu en mode oreillette, on n'avait pas envie d'y aller, quoi. Bref. Bien, c'était Certains les Machos, merci Thierry.
Merci Thomas.
Merci Ira.
Merci Thomas.
Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le sur Twitter, Facebook, Instagram et venez nous liker, partager, commenter avec nous, commenter sur notre page CLAC Podcast, C-L-A-A-C Podcast. Vous pouvez également vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ainsi que mettre un petit commentaire des 5 étoiles et autres. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
En gros, il y a de l'escroquerie, il y a de la danse. Est-ce qu'on pourrait appeler ce film « La vérité si je danse » ?
Ouah, 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 ouah.
Merci.